Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo aujourd'hui, comment la danse et le mouvement peuvent-ils aller de l'abstrait au narratif sans jamais en approcher aucun des deux ? Noé Soulier, le directeur du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, nous propose les 9 et 10 octobre prochains sa nouvelle création Close Up, de représentation au quai après un passage au Festival d'Avignon. Eh bien, il est avec nous dans le pédalo pour que nous questionnions ensemble le mouvement. On retrouvera aussi Thomas en fin d'émission avec sa chronique sur les élections présidentielles américaines. On reviendra ensemble sur l'importance que revêtent pour lui ces élections pour qu'il puisse, comme un petit filou, échapper à la justice des États-Unis. Voilà, vous savez tout, alors ajustez bien votre gilet de sauvetage. C'est parti, le pédalo lève les voiles. Noé Soulier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes accompagné de Suzanne Copin à vos côtés. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir.
Vous êtes tous les deux membres du CNDC. Suzanne en charge de la communication et de la relation avec la presse, si je ne m'abuse. Et Noé Soulier, donc directeur du CNDC. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir à nos micros à bord du pédalo sur le Centre FM. Directeur du CNDC, donc le Centre dramatique de danse contemporaine d'Angers. Et les 9 et 10 octobre prochains, vous allez nous proposer votre spectacle close-up sur le plateau de la salle T900 du quai. Close-up, c'est 9 danseurs et danseuses, 5 musiciennes dirigées par Maud Graton, qui est également au clavecin. À travers cette œuvre, close-up, vous continuez à questionner le rapport entre la danse et la musique, mais cette fois, à travers l'œuvre inachevée, Noé Soulier, de Jean-Sébastien Bach et son morceau « L'art de la fugue ».
Absolument. Alors, c'est 6 danseurs, danseuses, un tout petit peu moins. Et puis, c'est cette collaboration avec Maud Graton sur l'art de la fugue, qui est vraiment une œuvre fascinante et très, très intrigante de Bach, parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette œuvre. Voilà, avec cette dernière fugue qui est inachevée, qui se termine sur... sur le thème qui est composé par les lettres du nom de Bach, B-A-C-H, donc qui forme une mélodie.
Et est-ce que vous pourriez un peu nous raconter ça, que c'est quoi ces lettres qui forment le B-A-C-H dans la musique, enfin, pour nos auditeurs auditrices qui ne sont pas forcément familiers de la musique classique?
Alors c'est vrai qu'en France on dit plutôt Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais dans les pays anglophones ou germanophones, on utilise les lettres, donc le A c'est le La, le B c'est le Si, le C c'est le D, et le H c'est... alors là c'est plus loin parce qu'on est plus dans... on va au-delà de la gamme, mais c'est des notes qui sont altérées. Donc B, A, C, H, ça fait Si, La, Do, et le H, je suis plus tout à fait sûr de quelle note ça forme, mais ça fait 4 notes. Et la dernière est altérée, c'est-à-dire qu'elle est un peu dissonante, elle est un peu hors des gammes, des notes principales de la gamme. Mais ça, c'est vraiment très spécifique, très, très technique, mais c'est vrai que...
Mais en tout cas, il y a plein de mystères qui entourent cette œuvre sur laquelle vous avez décidé de vous appuyer, vous, pour écrire ce spectacle.
Oui, parce qu'en fait, elle est quand même a priori écrite pour le clavier, pour le clavecin, mais c'est une œuvre... presque spéculative en fait. C'est autant un traité de contrepoint qu'une série de fugues. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que en termes de composition, c'est vraiment un des sommets de la musique occidentale. Et en même temps, c'est une pièce très émouvante. C'est-à-dire que certaines fugues sont les thèmes, les harmonies, même la structure rythmique, etc., à quelque chose d'assez viscéral, voilà, qui est très émouvant. C'est pas une pure construction abstraite. C'est un peu les deux à la fois, en fait. C'est ça qui... Mais donc, par exemple, il y a une certaine liberté sur la manière de... sur l'instrumentation qu'on peut choisir. Donc, par exemple, dans la version qu'on fait avec Maud, un certain nombre de fugues sont jouées avec clavecin, violoncelle, viol de gambe, violon et traverso, qui est la flûte traversière baroque. Mais ces mêmes fugues seront jouées plus tard dans la pièce au clavecin seul. Mmh. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez très ouvert en fait dans ce que peut être cette œuvre.
Noé Soulier, donc directeur du CNDC, qui propose son nouveau spectacle Close Up les 9 et 10 octobre prochains sur dans la salle T900 du Théâtre du Quai. Noé Soulier, comment est-ce qu'on écrit de la danse contemporaine en rapport et en lien avec la musique classique ?
Alors, il n'y a pas une seule manière. Moi, je peux parler
de la vôtre.
La vôtre. En fait, moi, j'ai un vocabulaire que je développe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui s'appuie sur des gestes qui visent des objets imaginaires. Par exemple, frapper un objet imaginaire ou lancer vers une cible imaginaire, éviter un objet imaginaire qui vient vers soi. Et l'idée de ce... Et donc voilà, petit à petit, on a essayé de développer, de déployer toutes les potentialités de cette manière-là d'aborder le mouvement, qui est très très riche, parce que on peut la déployer sur toutes les parties du corps, dans toutes les directions. Il y a une infinité de transitions possibles entre les mouvements. Mais ces actions, c'est aussi des manières de donner une couleur spécifique, une accélération spécifique, et aussi un affect, parfois une émotion qui va être un peu différente. Si on pense à frapper quelque chose, ou si on pense à éviter un objet, ça va engager le corps de manière différente. Donc ça, c'est un peu l'écriture que moi-même je développe, qui s'inscrit dans l'histoire de la danse occidentale que moi j'ai traversée comme danseur ou comme étudiant, à partir de la danse classique en fait, et de toute l'histoire de la danse moderne et contemporaine. Et donc où il y a différentes manières d'aborder le mouvement qui se sont succédées et qui sont nées les unes des autres, si je puis dire, un peu comme si on regarde l'histoire de la musique classique ou de la musique contemporaine, on voit que chaque génération finalement transforme ce dont elle a hérité. Mmh. Et après, par rapport à la musique de Bach, j'essaie de pas reproduire directement avec les corps dans l'espace la structure de telle ou telle pièce de musique. Donc je vais pas suivre, il va pas y avoir, ok, tel danseur correspond à tel instrument, par exemple, ou telle phrase de mouvement correspond à telle phrase musicale.
Parce que d'autres font comme ça ?
Absolument. Ouais. Alors, parmi les chorégraphes qu'on pourrait citer qui ont fait ça avec beaucoup de génie, à un sens, il y aurait Georges Balanchine, donc un chorégraphe américain des années 30 aux années 70, néoclassique, ou Anne-Thérèse de Kersmaeker sur certaines de ses pièces qui offre presque une sorte de visualisation de la partition musicale. Et puis, alors moi, j'essaie de pas faire ça, mais par contre, j'essaie de trouver des liens qui sont des formes de résonance entre ce qui se produit en termes de mouvement et ce qui se produit en termes sonores, en termes musical. Par exemple, juste pour donner un exemple, dans les fugues de l'art de la fugue, au début, les 4 premières fugues utilisent un seul thème musical, en fait, qui va être mis en relation avec lui-même de 1000 manières. Et donc, sur une de ces fugues, on a composé une phrase chorégraphique, et là, c'est un quatuor de 4 danseuses qui vont improviser avec cette phrase-là. Et alors, la phrase est écrite, mais par contre, en temps réel, elles explorent un peu toutes les possibilités d'unisson, de canon, de contrepoint qu'elles peuvent générer dans l'espace avec cette phrase-là. Par contre, ça se met pas en place comme un miroir de la composition musicale, mais c'est une composition chorégraphique qui est différente, mais qui fonctionne à partir des mêmes principes. Mmh. Et donc, je pense que quand on voit les deux, on va pas être conscient de tout ce que je raconte là, et c'est pas le but, mais par contre ça peut donner un sentiment de cohérence, un sentiment de Ouais, un sentiment de cohérence entre les éléments qui sont rassemblés.
Vous disiez hein, tout à l'heure, attraper, éviter, frapper, lancer, c'est un peu votre propos dans la, votre manière d'écrire hein, ces phrases chorégraphiques. Tous ces gestes, tous ces mouvements sont forts, puissants, on sort des Jeux Olympiques, c'est vrai que lancer, attraper, frapper, tout ça c'est des phrases qui sont, qui, c'est, en tout cas c'est des verbes d'action qui ont un fort trait, un caractère sportif, une sorte de puissance du corps. Ce corps jeune, ce corps vaillant, c'était important pour vous de montrer ce corps comme un objet un peu de puissance ou bien on peut aussi éviter attraper, frapper, lancer en ayant un corps plus faible, un peu plus hésitant, un peu plus vieillissant?
Ah, on peut tout à fait, mais d'ailleurs on le fait tous. Et d'ailleurs dans le fait de choisir ce vocabulaire-là, il y avait l'idée de choisir un vocabulaire qui... ou de s'appuyer au départ sur des formes de mouvement qui ne sont pas spécifiques à la danse. Donc c'est vrai qu'on peut penser au sport, mais on peut penser en fait à... En fait, quasiment tous les mouvements qu'on exécute sont motivés par des buts pratiques.
Alors je ne vais pas frapper et lancer en faisant la cuisine.
Même non, si, mais par exemple, on utilise aussi l'action d'attraper, par exemple, d'attraper le corps de l'autre, d'attraper son propre corps. Éviter, on le fait tout le temps, même vous évitez un meuble, vous évitez quelqu'un quand vous marchez dans la rue. Enfin, voilà, l'action d'éviter, elle est omniprésente. Et je dirais même qu'au fond, l'action de frapper ou de lancer, effectivement, elles vont avoir une dynamique particulière, même si on peut lancer de manière très douce, éventuellement. Mais au fond, elles se ramènent presque à deux types d'actions encore plus fondamentales, qui est que quand on frappe ou qu'on lance, on va vers quelque chose, et quand on évite, on se rétracte d'un espace, en fait. Et ces deux actions-là, qui est d'aller vers le monde ou de se retirer du monde, dans un sens, je dirais que c'est les deux. Donc je pense pas que c'est lié à un champ d'activité humaine spécifique comme le sport. Parce qu'aussi, c'est des choses que vous... Si on regarde dans l'histoire de l'art, même par exemple, si vous regardez la sculpture antique, alors c'est vrai qu'elle est aussi inspirée par le sport, mais aussi par la guerre, par l'investissement du corps dans l'action. Alors, c'est vrai que le vocabulaire que je développe, il est extrêmement virtuose, il demande un investissement technique très très fort, parce que j'essaye En fait, j'essaie de faire en sorte qu'on ne puisse pas reconnaître ces actions elles-mêmes, et donc d'introduire beaucoup de distorsions, notamment de perdre par exemple le rapport à la verticalité du corps, en amenant le corps à l'horizontale, en amenant à ce que le corps se retrouve face à toutes les directions de l'espace, ou en essayant d'aller trouver en fait des coordinations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, au sein de cette motricité qui, je dirais, est un peu commune, parce que même, j'ai parlé des humains, mais même, au fond, les animaux, en tout cas, les mammifères, et peut-être même au-delà, ils frappent, ils évitent, ils attrapent. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est commun, au fond, mais j'essaye, au sein de cette manière de bouger qui est commune, d'aller chercher quelque chose de complètement artificiel, de complètement... d'aller chercher des coordinations, des transitions entre les mouvements que j'ai jamais vues.
Noé Soulier, quel est le propos que vous défendez à travers Close-Up, donc cette création qui sera les 9 et 10 octobre prochains sur la scène du T900 au Quai? C'est quoi votre propos, si jamais vous deviez résumer ça succinctement?
C'est une exploration de ce que peut le corps, en fait, et de tout ce que peuvent les corps, en fait, et de toute la... Je pense qu'au fond... Quand on pense à nos corps, au quotidien, il y a quelque chose de très réduit dans la manière dont on les éprouve, dont on en fait l'expérience. On est très limité dans les postures que la politesse nous autorise, que les règles sociales nous autorisent, que les habits qu'on porte nous donnent, que la table ou la chaise sur laquelle on s'assoit. Et on éprouve et on explore qu'une toute petite... parcelle de ce que peuvent ressentir, éprouver, déployer nos corps, en fait. Et c'est une manière d'essayer d'exploser ces cadres-là et d'aller chercher tout ce que peuvent les corps. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de complètement non-genré dans l'approche du mouvement. D'ailleurs, il y a un danseur, par exemple, qui ne pourra pas faire une date, il sera remplacé par une danseuse, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'aller explorer... des formes de sensualité et de sensibilité dans le mouvement qui sont peut-être un peu bridées dans nos existences modernes.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, c'est qu'au cours de la représentation, une vidéo sera diffusée sur grand écran qui sera tournée en direct. Donc ça veut dire que concrètement, il va y avoir une caméra sur scène qui va filmer les danseurs, danseuses.
Absolument.
Pourquoi ajouter ce support vidéo en plus de ce qu'on peut voir sur scène? Pourquoi j'ai l'impression que ça fait un peu gonzo danse, toujours au plus près d'eux?
Alors, je ne sais pas exactement... alors, en fait, il y a il y a plusieurs choses. D'abord, la vidéo, la partie avec la vidéo, elle est autonome. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de la pièce où il n'y a pas de vidéo. Et donc, il y a aussi un effet de surprise quand on passe à la vidéo. Quelque part, il y a deux pièces, ou même trois pièces dans la pièce. Il y a une première partie qui utilise vraiment un espace assez peu profond, qui est à l'avant-scène, et on ne révèle pas du tout le dispositif vidéo. Dans cette première partie, on joue beaucoup sur le fait de renverser le corps, un peu comme je disais tout à l'heure, et de faire face. Au fond, ce qui est étonnant dans un théâtre, c'est que le public, il est disposé comme ça dans une sorte d'arc de cercle, et puis dans T900, il y a un balcon, donc presque de demi-sphère de regard possible. Et parfois, on fait comme s'il y avait un seul regard, en fait, qui est le regard privilégié de la personne qui est au centre, pile au bon endroit. Mais là, on déploie une danse qui s'adresse à une grande multiplicité de points de vue. Et ensuite, dans la deuxième partie, il y a cette partie avec la vidéo, mais elle est très particulière parce que, en fait, j'espère que ma description va être claire, mais en gros, il y a les danseurs. Ensuite, entre les danseurs et la... Donc, si, du point de vue du public... Il y a d'abord la caméra.
Il va y avoir une caméra entre le public et les danseurs.
Alors, qui est très fine, hein, donc il y a juste un petit pied comme ça et une caméra qui est assez petite.
Qui sera statique.
Qui est statique, ouais. Qui est en plan fixe, qui est à la hauteur à peu près du milieu du corps, à peu près à la hauteur du nombril des interprètes. Entre cette caméra et les danseurs, il y a un cadre en métal qui fait à peu près 60 cm de large sur 45 cm de haut, donc qui est une toute petite fenêtre comme ça, qui est formée de bandes de métal, et les bandes elles-mêmes sont pas très larges, elles font 6 cm, donc on voit en fait cette espèce de cadre, de fenêtre, et les danseurs et les danseuses utilisent ce cadre-là pour pouvoir en fait positionner leur mouvement, leur corps ou des parties de leur corps, des fragments de leur corps dans l'espace qui est capturé par la caméra. Et pour moi, c'est vraiment un renversement, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des danseurs qui bougent et qu'il y ait quelqu'un qui vienne sélectionner telle ou telle partie de leur corps qu'il veut montrer, qu'il y ait quelqu'un qui vienne composer l'image, mais que cette personne-là soit finalement derrière la caméra, que ce soit celle qui regarde, là, c'est la personne qui se montre, qui est dans cette position aussi de vulnérabilité de s'exhiber, de se montrer à l'autre, qui compose l'image, qui compose l'expérience visuelle qu'elle propose. Donc il y a un vrai renversement dans le rapport de force, dans le rapport de pouvoir entre celui qui regarde et celui qui se montre. Et puis, il y a autre chose dans ce dispositif-là, c'est qu'il y a une forme à la fois d'intensification effectivement de, comme le titre l'indique, close-up, qui veut dire gros plan, donc d'aller vraiment dans l'intime. On voit les corps qui respirent, les micros aussi sont extrêmement proches, donc on a accès à une intimité auquel on n'a jamais accès sur scène. Et en même temps, comme il y a cette fragmentation des corps, il y a aussi une certaine forme d'abstraction, c'est-à-dire que la chorégraphie, elle passe par l'image, elle passe par la projection. Pour moi, un peu de la même manière que les mouvements des musiciennes passent par le son. Il y a l'intermédiaire de l'instrument, en fait. On n'en a pas accès. On les ressent, leurs mouvements. On les ressent dans les accents, dans les appuis musicaux, etc. Là, on les ressent dans la manière dont ils s'expriment à l'image. Après, c'est particulier aussi parce qu'en fait, on voit le tournage en même temps qu'on voit l'image. Donc l'écran se situe au-dessus, en fait.
C'est ça, il y a cette vision un peu duale de ce qu'on voit sur scène à la fois sur l'écran. Les 9 et 10 octobre, donc, c'est Close-Up de Noé Soulier qui est avec nous sur le centre FM de Radio Campus Angers. Noé Soulier, il nous reste très peu de temps. C'est absolument passionnant tout ce que vous racontez. J'ai quelques questions rapides à vous poser. Répondez-moi rapidement. Est-ce qu'il y a une place pour les costumes?
Limité, mais oui, il y a des costumes très simples, assez quotidiens, notamment les danseurs sont en jean, en fait, qui pour moi était une manière de d'évoquer quelque chose de quotidien et de fonctionnel qui est un peu qui contraste avec la nature du mouvement. Quoi.
C'est la chance que vont avoir les Angevins et les Angevines, c'est de pouvoir voir ce spectacle qui a été joué cet été au Festival d'Avignon. Il a été bien reçu. Vous êtes content ?
Très content, ouais, ouais. Non, c'était un accueil hyper chaleureux, aussi bien du public, des professionnels, de la presse, donc c'était génial.
Pardon, j'enchaîne les questions un peu en rafale, mais il fallait absolument quand même que je vous demande. Vous êtes le directeur du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine à Angers, Noé Soulier, et tous les trois ans, vous accueillez une nouvelle promotion d'étudiants et d'étudiantes qui suivront chez vous un cursus autour de la danse. On est sur les ondes de Radio Campus Angers. Je ne peux pas passer à côté de cette question. Comment s'est passée leur rentrée ?
De mon point de vue, très très bien.
Vous êtes satisfait de cette nouvelle promo ?
Ouais, ils sont très inspirants, ces nouveaux étudiants.
L'année dernière, ils étaient 18.
Et là, ils sont 20. Ils sont 19 pour l'instant, parce qu'il y a un étudiant qui vient du Burkina Faso qui est encore en attente de visa, mais ça va se résoudre, j'espère, très vite. Et j'ai enseigné 2 semaines des ateliers et j'ai été vraiment très inspiré par par tout ce qu'ils apportent, par la richesse de ce qu'ils convoquent et par leur enthousiasme.
Qu'est-ce qu'on apprend à des jeunes qui arrivent au CNDC en tant qu'étudiants ?
On essaie de créer un contexte où ils puissent expérimenter, où ils puissent découvrir des choses, où ils puissent douter, où ils puissent désapprendre certaines choses, où ils puissent en apprendre d'autres. On essaie de créer un contexte où ils puissent vraiment éprouver beaucoup de ce qui se joue dans la scène contemporaine. On n'essaie pas de les farcir, si je puis dire, de connaissances et de techniques et tout ça. Même. Mais même s'il y a bien sûr de la transmission de connaissances et d'expertise, etc. Mais je pense que c'est un endroit pour... je trouve que les écoles d'art, en tout cas les écoles de danse, sont un endroit vraiment privilégié pour expérimenter, en fait, d'une manière qui est pas forcément possible avec le même temps, avec la même profondeur quand on est dans la création d'une pièce où on va aller essayer de produire quelque chose. Là, il y a 3 ans. Donc 3 ans, c'est aussi un temps où on peut se perdre, en fait. Mmh. Donc peut-être c'est aussi un temps pour se perdre.
Se perdre ce droit à l'erreur, d'essayer de se tromper, de recommencer, d'essayer encore. Merci beaucoup, Noé Soulier, d'avoir été à nos micros à bord du pédalo sur Radio Campus Angers. Je le rappelle, les 2 représentations de Close Up OK, c'est les 9 et 10 octobre prochains. Il reste des places, hein, Suzanne. 12 € tarif étudiant, vous avez une vraie politique vis-à-vis des étudiants au CNDC.
Oui, et on a choisi ce spectacle avec une tarification de 5 euros, tarification unique, et ça c'est seulement sur la représentation du jeudi 10 octobre, et il reste quelques places, donc faites vite.
Courez-y, si jamais vous voulez y aller le jeudi, c'est 12 euros, c'est pas non plus extrêmement cher. Si jamais vous nous écoutez, que vous n'êtes plus étudiant, ce qui peut arriver sur les ondes de campus, le tarif plein c'est 27 euros, 9 euros si jamais vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, quels qu'ils soient. Voilà, ça va être un beau spectacle. Vous avez hâte, Noé Soulier, de présenter ça aux Angevins Angevines ?
J'ai vraiment très hâte. Et...
Vous redoutez ? Ce public angevin est difficile.
Non, je trouve que le public angevin est très généreux. Et je suis toujours impressionné par sa curiosité et son enthousiasme. En tout cas, je le trouve vraiment... on a la chance, et grâce probablement à la présence du CNDC depuis des années et des années, hein, bien avant qu'on arrive, d'avoir un public qui est sensible à la danse, qui a une culture de la danse, et c'est très précieux.
Noé Soulier, je propose qu'on se laisse avec 4 minutes 10, un peu suspendu. À votre avis, on va écouter quoi ?
Ça sent l'art de la fugue.
On va écouter l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, le contrapunctus qui est interprété par David Moroni au clavecin. J'ai pas trouvé la version de j'ai perdu son nom à l'instant, excusez-moi.
Maud Graton. Elle l'a pas encore enregistrée.
Mais voilà, elle l'a pas enregistrée. Donc courez les 9 et 10 octobre au quai. Jean-Sébastien Bach sur les ondes de campus dans le pédalo. C'est pas souvent qu'on met de la musique classique, je suis pas peu fier de pouvoir proposer ça sur le Centre FM. Voilà, une fugue de Jean-Sébastien Bach, sur laquelle il va y avoir toute une chorégraphie avec le spectacle Close-Up de Noé Soulier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos micros.
Merci. Thank you.
Fugue de Jean-Sébastien Bach sur les ondes de Radio Campus Angers. C'est assez rare. Le temps nous est compté, alors j'ai dû abréger très légèrement la dernière minute de cette fugue, mais n'hésitez pas, hein, c'est disponible sur Internet. Allez écouter, c'est quand même vraiment merveilleux de temps en temps de se perdre un peu dans la musique classique. On ne le fait pas souvent, moi je ne le fais jamais, mais en fait ça, voilà, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. On continue dans le pédalo avec Thomas. Salut Thomas.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Tu nous fais le point sur les élections américaines, comme chaque semaine. C'est toujours un plaisir. Et cette année, tu nous parles de Donald Trump et de ses procès, puisque Donald Trump est empêtré hein, dans plusieurs procès en ce moment. Et ils vont avoir, ces procès, évidemment, une influence sur les élections américaines, les procès dans lesquels est impliqué Donald Trump.
Tout à fait. Alors, on le sait, depuis plusieurs années, Donald Trump fait face à plusieurs scandales judiciaires, dont deux majeurs, l'un pour dissimulation de rapports sexuels et l'autre pour son ingérence lors de sa destitution en 2021. Ces procès dégradent fortement son image ainsi que celle du Parti des Républicains.
Et comment ces procès vont impacter concrètement Donald Trump, Thomas ?
Alors, eh bien là, si Donald Trump est réélu le 2 novembre 2024, il est fort probable qu'il puisse échapper à la justice américaine. Le président aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, bénéficie d'une immunité judiciaire pendant son mandat. Cela pourrait rendre les accusations obsolètes grâce à la prescription des faits qui pourraient survenir.
Et donc sa réélection revêt un véritable enjeu pour lui, puisque s'il est élu, il pourrait donc réchapper à la justice.
C'est ça, une situation qui arrange bien l'ancien président qui, comme dit en introduction, a actuellement deux grosses affaires qui attendent un verdict final. Pour exemple, fin mai 2024, la condamnation pénale de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, l'actrice X, avait défrayé la chronique. Pourtant, 3 mois plus tard, aucune peine n'a encore été prononcée et aucune ne le sera avant l'élection présidentielle du 2 novembre 2024.
Et une des affaires, des autres affaires qui collent au doigt de Donald Trump, c'est évidemment aussi cet envahissement du Capitole après sa défaite lors de la précédente élection présidentielle, Thomas.
Alors celle-ci, je l'ai bien gardée de côté pour une raison. Déjà, dans l'affaire du Capitole et des ingérences de 2021, si Donald Trump doit effectuer une peine de prison comme le veut le verdict et la loi américaine, il perdra son droit de vote. Alors, son droit de vote. Une information qui peut faire un petit peu sourire, car dans son état en Floride, on ne peut pas voter si on est en prison ou sous une peine de prison. Mais, et là c'est un petit peu plus important, il faut mentionner que certains États ne reconnaissent plus Donald Trump comme candidat légitime aux élections. À ce titre, Donald Trump est inéligible dans le Maine et le Colorado.
Mais cela, est-ce que ça ne s'est pas déjà produit dans le passé ? Il y a déjà échappé à la justice en tant que président, hein, non, je pense à l'affaire du financement égyptien lors de sa campagne en 2016.
Tout à fait. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump pourrait utiliser la fonction présidentielle pour échapper à des affaires. Pour rappel, en 2016, Donald Trump a réussi à lever près de 10 millions de dollars pour sa campagne, dont une partie provenait d'un accord controversé avec le président égyptien. Ce financement étranger est interdit par la réglementation des comptes de campagne américains. Cependant, l'enquête n'a jamais abouti, les preuves ayant probablement été effacées sous l'administration Trump.
Donc l'objectif de cette campagne pour les élections de 2024 serait, au-delà de devenir président de la République, aussi d'éviter la justice, hein, en quelque sorte.
Effectivement, une élection à la Maison-Blanche pourrait signifier la fin de ses affaires judiciaires. C'est un enjeu majeur pour Donald Trump qui continue sa course pour rallier les électeurs à travers tout le pays, comme lors de sa dernière allocution en Pennsylvanie.
Ouais, c'était pas très loin de l'endroit où il a subi, enfin voilà, où il y a eu sa tentative d'assassinat en juin dernier, c'est ça ?
Tout à fait.
Merci beaucoup Thomas.
Merci
d'être
Hugo.
Venu à nos micros pour ta chronique. On se retrouve dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, je suis à Saint-Denis de la Réunion pour vous faire vivre en direct le festival Les Électropicales avec l'équipe de Radio Campus France. Voilà, donc je serai absent. 2 semaines sans toi, Thomas, c'est
terrible.
Terrible, insoutenable.
Insupportable.
Je t'en supplie, tease-nous. Quel sera le sujet de ta prochaine chronique ? Est-ce que tu as déjà des idées en tête ? De quoi tu peux nous parler ? Tu vas nous parler ?
La prochaine chronique arrive la semaine des élections ou celle d'avant, il me semble ? Je suis pas sûr.
Ouais, c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après, c'est dans 2 semaines.
Ouais, donc ce sera très probablement sur les swing states, donc les États qui peuvent changer d'un camp ou l'autre en 48 heures.
très intéressant, les swing sets. C'est vrai que c'est là un peu où toutes les élections
c'est là où ça va jouer.
Se jouent. On a hâte de t'écouter. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu dans le Pédalo. Le Pétalo qui termine, lui, sa traversée sur les ondes de campus. Nous, on se retrouve dès demain avec WIT. WIT, c'est le nouvel épicentre culturel en plein cœur du centre-ville d'Angers. WIT, c'est un petit centre culturel qui propose tout au long de l'année des activités pour tous les âges, des ateliers, des expositions, des rencontres littéraires, des débats de société, plein de petits concerts, etc., etc. Alors évidemment, restez bien avec nous et on se retrouve demain sur le Centre FM. Très très bonne soirée à toutes et à tous avec Radio Campus Angers, chez vous, dans votre voiture, où vous soyez. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.